poule aux vanilles. J'aime bien la framboise.
Je pense que je vais prendre deux poules vanilles.
Je sais pas. Deux poules vanilles.
Salut, c'est Lucie, l'émission d'information locale de Canal B. Là, on se retrouve dans l'émission De Boule Vanille, une carte blanche estivale qui est laissée aux salariés et aux bénévoles de la radio. Et donc aujourd'hui, c'est moi qui suis au micro pour vous parler de littérature et ce pendant une heure. Au menu, interview d'auteur, de la musique, une lecture de Claude Ponty et puis une recommandation de podcast, toujours autour du livre De Boule Vanille. C'est parti. Aujourd'hui, De Boule Vanille chausse à nouveau ses lunettes, s'installe sous la couette avec une tisane à portée de main. Pendant une heure, on va parler littérature pour vous donner des idées de lecture pour vos vacances si elles arrivent. Également, vous faire rencontrer des auteurs de la région et faire résonner leurs bons mots dans vos esprits. Et aujourd'hui, en studio, on reçoit Antoine Filias. Antoine, bonjour.
Salut.
Antoine Filias, auteur rennais, mais aussi, on le précise, animateur bénévole à la radio Canal B. On se connaît donc un petit peu et on va se tutoyer pour cet échange. Je te reçois pour parler de ton dernier livre, Plexiglas, qui est sorti aux éditions Asphalt il y a presque un an. En fait, c'était l'été dernier. C'est ton deuxième roman, ou le troisième même, puisque tu es aussi allé avant ça vers le roman ado. En tout cas, il est conseillé à partir de 13 ans. C'était une collaboration à quatre mains. On redit un mot sur ces deux précédents bouquins.
Ouais, si tu veux, celui qu'on a écrit à quatre mains, donc c'était avec Alice Zénitaire. Il s'appelait Home Sweet Home, sorti à l'école des loisirs. Et c'est un roman déjà sur un roman social sur des jeunes qui doivent vivre dans un lycée à l'abandon durant la crise des subprimes en 2008 à Cleveland. Et puis ensuite, il y a eu Stéréo, premier roman solo entre guillemets, qui est sorti aux éditions Équateur en 2021 et qui dont tout le début du roman se passait à Rennes d'ailleurs durant les Transmusicales 92 autour d'un concert de Pavement Sonic Youth. Et puis après, c'était une romance et une histoire d'amitié dans les années 90 avec matinée de musique et de villes que vous connaissez, dont Rennes. Voilà, je dis ça pour les Rennais qui nous écoutent.
On a l'impression quand même que tu aimes bien installer tes histoires dans des cadres plutôt urbains ou périurbains, avec des personnages qui sont loin de l'image qu'on se fait des héros.
Ouais, j'aime bien cartographier des villes que je trouve pas souvent encore en littérature, parce que bon, Paris, si vous voulez un livre sur Paris, vous en trouverez, mais des livres sur Cleveland, dans Stéréo, évidemment il y a Rennes, mais il y a aussi Brive-la-Gaillarde, dans le dernier Plexiglas, ça se passe à Cholet, donc j'aime bien aller explorer ces villes-là, et puis je me rends compte que dans les trois bouquins, et ça va changer pour le prochain, mais dans les trois bouquins, il y a toujours deux personnages principaux. Alors c'est très genré, il y a toujours un personnage masculin, un personnage féminin principaux qui se partagent la narration, qui se partagent l'histoire, qu'on va suivre en tout cas, et qui et souvent c'est des romans sur l'amitié. C'est mon sujet, je crois, préféré en fait.
Est-ce que avant ta première publication en 2019, t'écrivais déjà depuis longtemps et puis sous quelle forme ?
J'écrivais depuis l'enfance. Quand j'étais vraiment gamin, je racontais des histoires sous forme de BD. Et puis après, j'ai un peu lâché ça. J'avais pas assez de talent vraiment pour continuer dans le dessin. Par contre, j'ai continué d'écrire des histoires, des pièces de théâtre aussi beaucoup, des web-séries, comme si ça se faisait il y a 15 ans. On en a tourné quelques-unes d'ailleurs. Et à un moment, j'ai commencé, je pense qu'il y avait à la fac, vers l'âge de 20, 21 ans, j'ai commencé à me dire, essayer de faire un format long, vraiment un roman. Et puis évidemment, il y a eu plein de premiers romans qui n'ont pas été publiés, tant mieux parce que c'est abominable. Mais ça m'a permis d'apprendre un petit peu une discipline, une rigueur. Et puis quand j'ai eu la chance d'être publié pour la première fois, là, ça a débloqué pas mal de choses.
Qu'est-ce qui a expliqué que ce premier roman écrit à quatre mains, il a été publié et que ça déclenche un peu les choses? Après, on imagine que ça facilite le fait d'être plus visible pour un éditeur.
Ouais, alors là, pour le coup, ce qui a vraiment facilité les choses, c'est qu'il y avait le nom d'Alice Zénitaire aussi dessus, qui est une autrice qui a du succès, on peut le dire. Et,
elle a été prix Goncourt des lycéens avec L'Art de perdre.
Ouais. Et à ce moment-là, quand on a commencé à bosser ensemble, L'Art de perdre n'était pas encore sorti, mais quand le bouquin est sorti, elle avait déjà eu son succès avec L'Art de perdre, puis ses romans précédents aussi que j'aimais beaucoup. Et évidemment, ça. Ensuite, quand on envoie un manuscrit, même en solo, on a cette carte de visite quelque part, et puis une crédibilité. C'est vraiment un milieu assez abominable là-dessus. Je pense que le milieu de la musique est pas si loin que ça, mais en gros, faut être publié pour être publié. Il faut c'est toujours le serpent qui se mord la queue, et donc il faut cette première opportunité, elle est essentielle, et je suis content de l'avoir eue, notamment grâce à Alice, qui complètement par hasard avait été tombée sur des. Enfin, c'est une longue histoire, mais pour la faire courte, elle était tombée sur mes premiers manuscrits. Elle avait beaucoup aimé. C'est là qu'elle m'avait proposé une collaboration, puis on est devenus potes dans la foulée.
Alice Zénitaire qui est aujourd'hui réside dans un coin de Bretagne, elle est installée dans la région. Est-ce que pour écrire, il faut avoir lu, selon toi, j'ai lu du côté de Libé que ton roman, il pouvait évoquer un peu du Nicolas Mathieu ou du Houellebecq, mais sans l'aigreur du second personnage. Toi, dans tes inspirations, tu cites Jean Echenoz, François Bégodeau ou encore Jack London, donc lecteur aussi.
Ouais, bien sûr, et puis oui. Ouais, je pense qu'il faut quand même lire pour écrire, ça me semble évident. Enfin, en tout cas, il faut lire beaucoup, beaucoup. Enfin, en tout cas, moi, je m'y tiens et oui, les influences, je les revendique. Alors, on me compare souvent parce que j'ai écrit un roman qui se passe dans une zone que les journalistes appellent zone périphérique. Et donc, comme Nicolas Mathieu a fait la même chose avant, on me compare souvent à lui. Alors moi, le fait est, quand j'ai écrit Plexiglas, j'avais jamais lu Nicolas Mathieu. Je l'ai lu depuis, puis clairement, je pense qu'on fait pas du tout la même chose. Enfin, c'est pas le... ça peut pas être une influence, en tout cas au niveau du style. Et par contre, ouais,
Echenoz, son style est moins nerveux, peut-être, s'il fallait le qualifier.
Plus lyrique, disons, à l'ancienne. Et donc oui, je pense qu'il faut lire. Il faut lire notamment, et ça, je l'ai appris plus tard en commençant à publier beaucoup de contemporains. Et parce que j'ai passé beaucoup de temps dans les classiques, évidemment, ce qui est essentiel aussi. Mais lire la littérature contemporaine, ce qui se fait, quoi. Toujours être au courant de ce qui se fait, pas avoir d'a priori. Et puis c'est comme ça qu'on découvre des auteurs avec qui on peut être, on a des amitiés, quoi, au niveau style.
Est-ce que tu lis un bouquin particulier en ce moment ?
En ce moment, en fait, je lis que des choses qui sont en rapport avec le bouquin que j'écris. Là, il y a des périodes de ma vie de lecteur qui sont du plaisir. Il y a des périodes où il y a un peu du travail parce qu'on m'envoie beaucoup de bouquins et je dois lire des choses. Et puis, je commence à avoir des potes qui écrivent et j'ai envie de lire leurs livres, et etc. etc. Et puis là, comme je suis rentré dans une période d'écriture, je suis plus dans des choses qu'on rapporte. C'est pas forcément la littérature, d'ailleurs. Ça peut être des essais, ça peut être... quand je préparais Plexiglas, je lisais beaucoup de bulletins municipaux et de bulletins syndicaux. Alors c'est pas voilà, c'est autre chose, mais après pour moi tout ça c'est de la littérature. Il y a un style dans tout et ça m'imprègne toujours. Après je peux donner à la limite un coup de cœur récent qui a eu un prix d'ailleurs récemment et qu'on parlait d'amitié littéraire, et là il y en a une grande qui s'est fait entre nous, c'est Phoebe Haji Marcos Clark, qui a sorti un deuxième roman qui s'appelle Alien, et j'étais tombé par hasard sur son premier Tabor il y a quelques années dans une librairie à Rennes d'ailleurs, et parce que j'avais aimé la couverture, la quatrième de couve, mais je ne savais rien, je l'ai lu et je lui ai écrit ensuite, et on a une petite correspondance, puis je l'ai recroisé au salon du livre de Saint-Malo, L'étonnant voyageur, et on s'est troqué nos derniers bouquins, et Alien c'est vraiment un de mes livres préférés sortis cette année, je vous le conseille.
Bon, on se note ça dans nos carnets. Alors, Plexiglas, on le redit, il est sorti il y a un an. Il trouve peut-être un écho particulier dans la période tourmentée qu'on traverse et où de nombreux responsables politiques continuent à parler des Français comme d'un corps homogène alors que notre société semble morcelée et désenchantée. Mais si on revient au point de départ, curieusement, j'ai donc lu que c'était avant 2020, avant la crise du Covid, que tu t'es lancé dans l'écriture du roman.
Oui, j'avais commencé à le préparer en 2019, le roman, parce que je revenais pas mal à Cholet, j'ai ma famille qui est encore là-bas, et j'avais envie d'écrire sur ces lieux qui sont mon enfance et qui sont pas forcément des lieux où j'ai... C'est souvent des lieux dans lesquels je me suis ennuyé, mais où j'ai passé beaucoup de temps, et je voulais voir ce que ça faisait de faire un huis clos. Je voulais à la base faire un huis clos dans un centre commercial, puis après je me suis dit, autant prendre celui que j'ai le plus visité quand j'étais jeune, c'est le Carrefour de Cholet. Et donc ça, c'était décidé très tôt. Il a aussi été décidé très tôt, parce que moi, je marche d'abord par structure, de structurer le roman tout au long d'une année, avec les moments clés qui sont à la base des moments clés de la vie rurale et religieuse, que sont la Saint-Sylvestre, Pâques,
Noël,
le solstice, le Noël, etc. Et qui sont devenus évidemment aujourd'hui les grands moments aussi de la grande distribution pour faire des soldes et pour promouvoir des articles. Donc je voulais découper le roman comme ça. Je me suis dit, comme on arrivait fin 2019, je me suis dit on va commencer en janvier 2020. Je ne pouvais pas prévoir évidemment tout ce qui allait se passer en 2020. J'ai même hésité après à redécaler mais en fait ça nourrissait tellement mon propos et ça a créé une matière littéraire énorme. Et puis en plus il y avait pas beaucoup, on a senti le coup venir, qu'il y avait évidemment beaucoup de carnets de confinement bourgeois, mais il y avait peu de romans qui racontaient le Covid du point de vue des travailleurs et des prolétaires. Donc là c'était l'occasion et voilà.
on replante ou on continue à planter le décor. On est donc à Cholet, en Maine-et-Loire, c'est là que t'as grandi. Une ville de plus de 50 000 habitants où Elliot, bientôt 30 ans, revient pour chercher du travail et puis peut-être un mec aussi. Il est amoché physiquement et puis aussi un peu émotionnellement. Et c'est en périphérie de ville que ce personnage va vivre sous nos yeux de lecteur, entre un centre commercial et puis la maison vide de son grand-père qu'il réinvestit le soir du Nouvel An. Qu'est-ce qu'on peut dire peut-être sur le lieu, beaucoup de choses se passent donc à Carrefour.
Oui, je voulais vraiment dire que ce soit un huis clos total dans la galerie commerciale du Carrefour, parce que c'est un village, il y a le cordonnier, il y a le coiffeur, etc. Enfin, c'est vraiment la place du village actuel, surtout dans des villes où les bourgs sont morts. Et une ville de taille moyenne comme Cholet, en gros, quand on donne des directions à Cholet, on dit c'est soit à côté du Leclerc, soit à côté du Carrefour, soit à côté de l'Intermarché. J'ai cité les trois, comme ça on est bien à la radio. C'est ça que je crois, ce que j'avais appris il y a longtemps. Et donc je me suis dit, tiens, on va prendre celui-ci et je vais faire une galerie de personnages, évidemment sans comparer, mais un peu à la place du Bourg chez Flaubert dans Madame Bovary, ou un peu balzacien, voilà, pour ressortir des classiques. Et puis j'ai quand même voulu un petit peu sortir, aller voir où vivent les gens, et puis faire vraiment un portrait de la ville, comme moi je la connais, et puis de ses habitants, les plus variés possibles, parce qu'il y a vraiment toute une galerie. Et voilà, alors c'est particulier Cholet, hein, c'est entre la Vendée et l'Anjou, c'est dans une région qu'on appelle les Mauges, les mauvaises gens, si vous avez lu la super BD d'Étienne Davodeau, et qui est aussi une influence. Et voilà, moi j'ai passé 18 ans, j'ai pas choisi d'y être, j'ai choisi d'en partir en tout cas. Mais j'ai de l'affection évidemment pour ces gens, et j'écris ça évidemment sans juger personne, mais au contraire avec beaucoup d'affection. Et non seulement pour les Choletais, mais ça je m'en fous un peu, mais surtout pour les travailleurs et pour les prolos de la ville.
Alors pour s'y retrouver, les lecteurs, ils ont une carte de la ZAC de Cholet, la zone d'aménagement concertée, donc en ouverture du livre. Et puis on lit ces mots: Carrefour est ouvert. Au-dessus de l'entrée, on lit: grand, petit, jeune, moins jeune, pressé, moins pressé, lent, curieux, zigzagueur, chien, chat, distrait, concentré, sérieux, émerveillé, calme. Ici, nous partageons tous un air de famille. Et alors la famille, justement, eh bien Elliot, il va croiser celle qui pourrait presque être sa mère assez rapidement dans un bar, et dès les premières pages, elle va ensuite être pas très loin pour le reste du roman. Lucette, ou plutôt Lulu, pourrait donc être sa mère. Elle a bientôt 60 ans, en tout cas elle a la cinquantaine bien avancée.
Oui, c'est ça. Elle arrive, plus elle arrive à la retraite, plus la retraite s'éloigne.
Et elle est employée de caisse chez Carrefour. On découvre qu'elle a été licenciée avant d'arriver à ce poste-là, dont elle raconte l'exigence et vraiment la façon dont ce travail la maltraite son corps et son esprit.
Oui, elle a une attelle, parce que les gestes sont si répétitifs à la caisse d'un supermarché qu'elle finit par avoir une entorse. Et puis elle a également l'âge qu'elle a et des métiers qu'elle a, parce qu'avant elle travaillait à Bébé Confort, qui a été d'ailleurs une des grandes fermetures d'entreprise à Cholet, et elle se retrouve à travailler à Carrefour maintenant avec tous ses problèmes de santé. Mais elle tient bon, parce qu'elle sait que de toute façon elle n'a pas le choix, et elle sait que la retraite, même si elle recule, elle arrive quand même bientôt. Elle espère juste pouvoir y arriver sans passer à l'hôpital, quoi.
Alors sur les exigences de ce poste qu'elle occupe, je cite: d'abord la pression horaire, car on lui demande de pointer en avance et de décompter sa caisse à la fin d'une journée se terminant forcément en retard. Même rigueur face aux clients à qui il faut assurer un passage fluide et rythmé. Même rigueur sur les temps de récupération dans une salle de pause située à l'autre bout du magasin. Fatigue parce que Bébé Confort l'avait habitué aux tâches répétitives, mais jamais à être aussi mécanique, aussi loin de ses collègues, aussi surveillé par sa direction pour un salaire si bas, 950 € pour 30 heures par semaine. Les deux personnages principaux qu'on vient de présenter, ils sont entourés de toute une autre galerie de personnages, des collègues comme William à la sécurité, de la famille. Elliot a une sœur, Raph, et Lulu a un fils qui s'appelle Hugo. Et puis il y a des gens qui s'en vont de leur vie, d'autres qui arrivent. Comment est-ce qu'on construit ces personnages et de quoi on les nourrit, de soi et de son entourage?
Bah, les deux principaux, Elliot et Lulu, il est clair que Elliot, j'ai mis beaucoup de moi-même là-dedans. On est à la limite de l'autofiction, même s'il y a plein de différences, mais quand même, je pense que de tous les personnages que dans tous les romans que j'ai faits, c'est celui dont je suis le plus proche. Et Lulu, j'ai mis beaucoup de ma mère, et puis aussi de de travailleurs que je connais dans ma famille ou ailleurs, ou dans les, parce que moi j'ai pu aussi travailler dans ce genre de métier, et j'ai mis beaucoup de gens que j'ai vus, et puis après bah voilà, tous les autres personnages, ils naissent de ça. Elliot a une sœur jumelle parce que moi je suis fils unique et j'avais envie de voir un peu ce que ça faisait, et puis Lulu elle a un fils où j'ai mis pas mal de moi aussi, enfin du rapport avec ma mère, enfin c'est, mais ça peu importe, quelque part ça c'est, ça me regarde, mais dans le roman, tout ce que j'essaie de faire, c'est que les personnages soient, comme je disais, divers et puis authentiques, juste. Et voilà.
Ces personnages, tu l'as dit, on les suit sur un an, au rythme des moments clés d'une galerie commerciale, Nouvel An, Saint-Valentin, Pâques, été, rentrée scolaire et jusqu'à Noël. Mais cette année, c'est donc une année particulière, l'année 2020, qui ne va pas faire de cadeaux à ceux qu'on a alors qualifiés de travailleurs en première ligne ou de travailleurs essentiels. C'est là où ton roman, il prend presque une dimension sociologique. On est en 2024, j'avais oublié presque le vocabulaire qu'on a découvert, et puis même des façons de se comporter avec la distance. Distanciation sociale, le lire aujourd'hui, c'est se remettre dans cette période si particulière.
Bah j'avais peur quand j'ai fini de l'écrire en 2021, quand j'étais en résidence et d'écriture, et j'étais en train de me dire, est-ce que ça, en 2021, on saturait beaucoup, et on était encore dans des confinements, dans des vagues en tout cas. Et je me disais, qui va avoir envie de lire ça ? 2022 arrive, là je trouve une éditrice, Estelle, chez les éditions Asphalt, et pareil, je leur dis, est-ce qu'il n'est pas un peu trop tôt pour le sortir, alors on travaille dessus, etc. Il finit par sortir en 2023, et déjà là, 2023-2024, on regarde ça comme si c'était une histoire super lointaine, alors que c'était il y a 4 ans. Et donc c'est moi-même, je relis le roman ou je relis des extraits, on me lit des extraits comme tu le fais, et je me dis waouh, j'ai l'impression qu'on parle d'il y a 10 ans, quoi. Et pourtant ça a laissé des traces, évidemment. Je pense que les travailleurs essentiels dont je parle sont pas beaucoup mieux traités 4 ans plus tard. Les gens tombent toujours malades du Covid, peuvent en mourir aussi toujours. Et puis je pense que l'actualité politique parle d'elle-même. Donc voilà, c'est vrai qu'on peut regarder ça avec un peu plus de recul aujourd'hui. Et je pense que ça peut être intéressant. Moi je suis content d'avoir vraiment gardé presque de manière en petit historien les détails, les apparitions télévisées, les discours. Évidemment c'est pas un documentaire, c'est un récit, mais dedans il y a ces petits bouts de réel qui sont consignés, donc c'est pas mal.
C'est le moment pour une pause musicale, on se retrouve dans un instant pour continuer à parler d'écriture avec Antoine Filias, mais d'abord Lost in the Supermarket par The Clash.
Offer guaranteed personality. I'm all lost in
Ce qui est intéressant, enfin, le fait d'avoir situé ça donc, dans la galerie d'un centre commercial, c'est que c'est un endroit où la vie ne s'est pas arrêtée et où les travailleurs et travailleuses qu'on rencontre ont dû gérer leurs propres angoisses, mais aussi celles des clients qui sont face à eux. Et donc, ce plexiglas, bah, c'est la frontière entre le travailleur et les clients qui sont là. Plexiglas, en l'occurrence, qui n'était pas là au départ, au début de la crise sanitaire dans les carrefours et autres.
Non, c'est...
C'est ce qui manque.
Puis c'est marrant, moi j'aime bien ce mot parce que ça sonne vraiment à la fois très ancien, très guerre froide, et en même temps très futuriste, c'est de la matière, et en même temps c'est quelque chose qui nous a séparés à ce moment-là, et en même temps c'est un roman sur la solidarité, donc voilà, puis ça rime avec mon nom de famille, voilà pourquoi ça s'appelle Plexiglas, mais il y en a encore d'ailleurs, j'en vois parfois du Plexiglas toujours à la caisse de certains supermarchés, c'est étonnant.
Lulu, elle est donc à quelques années de la retraite. Elle a participé un petit peu au mouvement des Gilets jaunes sur les ronds-points. Elle roule en Fiat Panda, fume des clopes et regarde pas mal la télé. Elle aide sa mère à payer l'EHPAD et c'est d'ailleurs un de ses premiers points communs avec Elliot, le soutien à un proche malade. Et puis surtout, il y a le face-à-face avec un monde du travail violent. Alors on l'a compris de quelle manière avec Lulu. Pour Elliot, ça se situe plutôt dans la difficulté à retrouver un travail et puis même des questionnements sur tous les petits boulots qu'il a pu occuper.
Ouais, c'était un portrait Elliot aussi d'un trentenaire précaire qui évidemment, contrairement à Lulu qui elle a dû trouver du travail très jeune, et on a trouvé parce que c'était des années où il était facile de trouver du travail, beaucoup plus simple en tout cas dans ces régions là. Elliot lui il est perdu, on l'a dit, il débute le roman, il se fait péter un tibia pendant une manif contre la réforme des retraites, ensuite il arrive tel un militant un peu remonté à Cholet, mais à Cholet ça militante pas. Donc c'est là où il va essayer de faire rentrer Lulu, raviver la flamme militante chez Lulu, parce que c'est aussi un roman sur ça, sur comment on est de gauche radicale, comment on lutte dans des villes où c'est peu organisé, où il y a finalement, en dehors des syndicats, il y a peu de choses qui se passent, même si les Gilets jaunes ont amené ça à Cholet, même si là, l'an dernier encore, contre la réforme des retraites, il y a eu, j'ai vu des manifs à Cholet presque inédites, et donc Elliot, il arrive là-dedans, il se fait un peu chier aussi, comment on rencontre un gars aussi à Cholet, quoi, quand on a 30 ans, tout comme Lulu se demande comment je rencontre un gars alors que je suis veuve et que j'ai 60 ans, c'est aussi compliqué, donc il s'entraide vachement là-dedans, c'est deux portraits de travailleurs de générations différentes, mais qui trouvent une manière à s'entraider.
En quatrième de couverture, on lit que tu racontes un territoire qui est peu présent en littérature, celui d'une frange qui a été amochée par le capitalisme et puis dans laquelle tes personnages, à défaut de pouvoir complètement résister, bricolent, bouinent, c'est le mot que tu emploies, avec ce qu'il y a et puis avec ceux qui sont autour d'eux. À ton avis, pourquoi est-ce que les auteurs ils s'en saisissent peu de façon réaliste de la France des Zach ?
Bah, je sais pas. Est-ce qu'il y a vraiment une France des Zachs ? On parlait de Nicolas Mathieu. À chaque fois qu'il y a un roman un peu qui sort du lot sur ces sujets-là, on en fait tout un truc comme si c'est l'exception qui est géniale. Mais même si là, il y a une mode un peu, j'ai l'impression. Et tant mieux, il y a des très bonnes choses qui se font et qui se font depuis longtemps, en fait. Alors, je sais pas si. Je réfléchis pas trop en termes comme ça. Moi, ça me semble évident d'écrire sur n'importe quelle ville et d'écrire sur. Il y a tellement de matière sans aller à Paris et tout. Et moi, ça me semble évident d'écrire sur le réel, parce que c'est mon fonds de commerce, c'est pas du tout le mot, mais en tout cas, c'est là où je trouve, où mon style trouve une manière de s'exprimer, c'est là où je trouve l'inspiration, tout simplement. Et donc ouais, je t'avoue que j'ai pas trop réfléchi à tout ça.
Dans l'écriture, tu multiplies les références populaires et souvent commerciales pour coller au lieu. Nos et autres magasins de type La Foire Fouille, Plus Belle la Vie pour les séries, McDo et Pizzasso des Beaux côté bouffe, et puis de RTL2 à BFM pour ce qui est des références médiatiques. Est-ce que c'est ce détail qui te permet d'éviter la caricature ?
Bah, ce qui me permet d'éviter la caricature, c'est que tout ce que je cite et tout ça, c'est juste et c'est vérifié. Il y a du travail de recherche qui est déjà un travail empirique puisque c'est quelque chose que j'ai vécu et voilà. Et puis il faut savoir qu'à chaque fois que quelqu'un allume la radio et qu'il passe ce morceau tel jour de l'année 2020, j'ai bien vérifié que c'était tel morceau. Quand ils allument la télé, c'est pareil. Et puis, mine de rien, ça peut paraître étonnant quand on écoute Canal B à Rennes et qu'on vit dans le centre-ville rennais entre gens de bon goût, rock'n'roll et tout ça, mais oui, faut savoir que moi j'ai passé 18 ans à Cholet, on captait ni FIP, ni France Inter, aucune radio de Radio France à part, je crois, France Bleu et encore, Par contre, on captait RCF en joue, les radios commerciales. Donc, on se fait pas une culture pareille. Il y a moins de médiathèques, il y a moins de choses. Et donc, voilà, pour être juste. Puis, ça m'amusait de savoir aussi, ça, c'est mon petit côté sociologue du dimanche où j'aimerais savoir, tiens, tel personnage, William, le vigile, qu'est-ce qu'il écoute, qu'est-ce qu'il fait de son temps libre, Françoise, la caissière, qui vote RN, qu'est-ce qu'elle regarde à la télé. Bon, voilà. Et puis aussi, ça, de me faire des surprises là-dessus.
Alors, il faut dire à l'auditeur, toujours sur l'écriture, que tu as donc une écriture qui est très oralisée, je trouve. On sent du coup proche des personnages, nerveuse aussi. Tu te livres plusieurs fois à des énumérations, des enchaînements de pensées où les points sautent carrément. Hypnotisé par son flotteur fluo, Elliot pense « Je pêche. Depuis la nuit des temps, l'homme pêche. J'aurais pu être pêcheur. Kevin doit être contre la pêche. » Je la cautionne seulement dans un cadre de survie. Là, je pêche dans un cadre sportif. Enfin non, récréatif. Ces poissons, nous les relâcherons. Je ne dérange pas mon environnement. Mon cul posé sur ce ponton, au bord de cet étang artificiel, n'a aucun impact. À moins que j'écrase sans faire exprès une fourmi. À côté de l'écriture, tu ne fais pas que ça. Comment tu es serveur dans un bar à Rennes. Je voulais savoir justement, est-ce que tu as trouvé une forme de routine pour faire aboutir tes projets d'écriture dans un espace qu'on sait, on va dire, saturé, on va le dire comme ça. C'est peut-être le moment où on peut parler aussi de la résidence. Tu avais déjà de la matière et tu es allé construire tout ça dans le cadre d'une résidence.
Ouais, c'est ça. Moi, sur la routine de travail, peut-être sur la méthodologie, moi j'en ai une qui fonctionne pour moi, qui est difficile d'appliquer quand je travaille. J'ai une période de ma vie où j'ai pu ne pas travailler. Et aujourd'hui, c'est pas possible. Donc ça me demande de. Bah, en fait, toute ma méthodologie, elle est réduite aux deux jours de la semaine où je travaille pas. Et cette méthodologie, ça a toujours été la même. Enfin, ça a pas toujours été la même. Avant, j'étais jeune. Je veux dire, je laissais l'inspiration. Je vais écrire toute la nuit. Voilà. Bon, ça marche pas évidemment. Non, moi, c'est plus évidemment avant de lancer dans un roman, il y a un long travail de recherche parce que je veux de la matière. Je t'expliquerai peut-être après sur, par exemple, le prochain bouquin, mais et ensuite l'après-midi j'écris et j'avance, et là pour le coup je me fais des horaires de bureau 14-17, 14-18, ça dépend, et j'avance. Peu importe si c'est bon, là on fait de la matière, on fait des phrases, et puis le lendemain matin, là c'est intéressant, entre 11h et midi, 10h et midi, là c'est ce que je préfère, c'est la relecture et le taillage de la matière que j'ai fait la veille, quoi. Donc là on enlève plein de choses, on refait des phrases qui ont de la gueule à mon sens, et puis voilà, et à la toute fin on refait ça entièrement, et après on le refait avec un éditeur, etc., etc. Donc ça c'est ma méthode, elle est beaucoup plus malmenée que le travail, mais en fait ça va parce que j'ai toujours un roman d'avance, en fait. Parce qu'il y a un décalage entre, tu vois, j'ai dit Plexiglas, j'ai commencé à écrire en 2019, fini en 2021, sorti en 2023. Entre temps, j'en ai écrit un qui sort là en mars prochain. Et là, je suis en train d'écrire un qui sortira peut-être en 2027. Donc, tu vois, ça laisse un peu de marge. Et puis, à côté de ça, oui, il y a des choses comme les résidences qui sont faites pour permettre aux auteurs, pour une fois dans leur vie, d'être payés pour écrire. Parce que ça n'arrive jamais sinon. J'ai eu la chance, Plexiglas a rencontré un petit succès d'estime, en tout cas chez les libraires et chez certains lecteurs, donc j'ai pu faire un petit tour de France des librairies, des salons, rencontrer du monde, et puis ça rebooste aussi, ça redonne de l'énergie, parce que des fois c'est vrai, quand on est dans le boulot, dans le quotidien, c'est pas toujours évident de se rebrancher à ça. C'est pour ça aussi qu'il est important de continuer de lire tout le temps, et voilà.
Sur la résidence, on se fait une image d'être dans un lieu très joli. Concrètement, c'est quoi une résidence?
Concrètement, alors déjà concrètement, c'est une région, c'est des fonds publics qui, sur dossier, vous permettent d'aller passer 2 mois. Alors ça peut être 2 à 6 mois, ça peut être 1 mois, ça dépend. En général, c'est quand même 2 mois. D'aller dans un endroit qui peut être en effet magnifique ou pas forcément, mais en tout cas un endroit où il y a une demande, et vous continuez un projet d'écriture. Soit vous êtes libre de faire ce que vous voulez, soit on vous donne une petite consigne. Des fois, c'est bon. Ça existe de moins en moins quand même. En tout cas, il y a une contrepartie, mais qui est super sympa, qui est en général pareil, d'aller faire des ateliers d'écriture dans des collèges ou des lycées, ou dans des EHPAD ou dans des médiathèques. Alors, on va aller à la rencontre d'un public du coin. Moi, j'ai eu la chance, moi j'ai vécu le cliché, bon, puisque j'étais en Provence et je vivais dans un hameau d'une trentaine d'habitants, ou sur un rocher avec les cigales et tout ça, c'était super. Mais en vrai, le quotidien, c'était quand même mes horaires de bureau dont je te parlais, aller boire des coups le soir, et puis j'allais faire un peu le truc que j'ai jamais pu faire parce que j'ai jamais fini ma licence. J'allais dans tous les quasiment 3 fois par semaine dans un collège et dans un lycée donner des cours d'écriture, enfin des cours, faire des ateliers, quoi. Et ça, c'était chouette.
Ton éditeur, là, ce sont les éditions Asphalte. Ton précédent roman, il était paru chez les Équateurs. Est-ce que la méthode et l'accompagnement d'un éditeur peuvent radicalement changer d'une maison d'édition à l'autre sur ce qui se passe une fois qu'on a un peu donné son premier jet?
Ouais, bien sûr, bien sûr. Je suis ravi de et j'ai envie de continuer à bosser avec Asphalt parce que justement, il y a un vrai travail sur le texte que j'ai pu faire avec Estelle, mon éditrice, sur Plexiglas. Et un vrai travail sur le texte, un vrai échange de valeurs. Moi, ça me ferait chier de bosser. Au début, je me disais que je m'en foutais parce que j'avais juste envie d'être publié, j'avais envie de que mon bouquin soit le maximum distribué et lu. En fait, peu importe. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de continuer de bosser avec des éditrices et deux éditrices à Asphalt qui ont des valeurs, dont les autres publications me plaisent parce que j'ai pas envie de bosser. À Équateur, ils sont voilà, j'ai sorti des textes sur Napoléon, des textes sur des gens peu recommandables ou carrément des connards comme Sylvain Tesson. Et j'avais pas envie d'être dans cette maison-là, même en étant une petite pierre dont tout le monde se fout. Justement, à Asphalt, on est peu, mais on est bien. Les deux éditrices, vraiment, sont derrière pour défendre nos textes. Et le travail est super, quoi. On prend le temps vraiment sur chaque phrase, parce que moi, la seule chose que je leur propose, c'est des phrases. Et il n'y a que ça qui m'intéresse. Donc, peu importe le sujet, c'est la forme. Et avec elles, enfin, je suis ravi, d'ailleurs on continue à bosser sur le prochain roman sortira chez Asphalt.
C'est aussi trouver la bonne personne, en tout cas de la part de laquelle on est capable d'entendre un avis, même si ça peut être douloureux d'enlever des choses dans son livre, mais on comprend la démarche, quoi.
Ouais, ça fait partie... non, en général c'est bien, il y a toujours des allers-retours, des fois on cède, des fois on cède pas... Mais c'est essentiel d'avoir un recul, d'ailleurs, en dehors des éditrices. Moi, j'ai toujours des premiers lecteurs aussi, dont Alice Zeniter, qui est toujours des retours, qui évidemment m'aide à faire un texte encore meilleur. Et puis oui, il faut savoir couper des choses. Moi, ça n'a jamais été trop un problème. Là, j'ai un autre problème, c'est qu'on me demande d'en rajouter. Alors ça, c'est différent, mais c'est intéressant aussi. Et à chaque texte, c'est un nouveau truc, et on s'en sort en ayant appris plein de choses, de toute façon.
Est-ce qu'il y a une scène dans le livre, est-ce que ça marche comme ça? Est-ce qu'il peut y avoir une scène dans un livre dont on est plus fier que les autres, ou alors c'est un ensemble, mais est-ce que ça peut ramener à des moments où on a peut-être été, on a galéré pour réussir à dire ce qu'on voulait dire
Ouais, il y a des scènes où je me dis waouh, je pensais pas avant de les écrire, je pensais pas être capable de les faire, mais j'avais envie de les faire et je suis content de comment je suis retombé sur mes pattes. Les scènes les plus qu'on aime le moins en général, c'est les débuts, parce qu'il faut savoir qu'un premier chapitre de roman, c'est celui sur lequel on bosse le plus et c'est dur, et je trouve d'ailleurs pour une fois j'ai plutôt un bon premier chapitre, parce que mes deux romans précédents, je trouve que c'est là où ça pêchait, mais c'est emmerdant les débuts de romans. Et puis non, après il y a même des fois, je sais plus des phrases, moi, que des chapitres, ou des phrases où je me dis, ou un paragraphe où je me dis ça, tiens, j'étais sûr que ça allait pas passer, que ça allait être coupé, où je me suis dit hop, et j'avais envie que ça reste, et je suis content qu'il soit dedans. Voilà, je ferais pas tant citer comme ça, mais il y en a plein dans chaque roman, ouais, parce qu'on se lance des défis. Moi, c'est toujours des défis, est-ce que je suis capable d'écrire un chapitre entier sur Lulu qui zappe à la télé, est-ce que c'est intéressant, quoi. Et bon, si c'est resté dedans, j'imagine que l'éditrice a jugé que c'était cool, quoi.
En début d'échange, je disais que ton roman avait un écho particulier dans la situation politique instable qu'on traverse. Ton livre, il est politique, il parle politique à travers des discours, des affiches, des vidéos regardées en ligne. Petit clin d'œil aussi à Gilles Bourdoulex, maire de Cholet, je cite, passé au tribunal pour apologie de crimes contre l'humanité après avoir déclaré qu'Hitler n'avait peut-être pas tué assez de gitans, 5 fois élu par les Choletais, fin de citation, qui a encore fait parler de lui récemment pendant la campagne des législatives.
Il voulait me faire de la pub pour Plexiglas, je pense. C'était son but d'ailleurs.
J'ai découvert, moi, Gilles Bourdoulex par ton roman, Antoine.
Et bien après, t'as pu le voir à l'œuvre dans les médias, c'est génial. Non, il est toujours là, il est plébiscité toujours par les Choletais.
Ma question, c'est la suivante. Tu racontes des personnages qui sont éloignés des dirigeants dont les politiques ont un impact sur leur quotidien. Je trouve que tu le fais sans condescendance, peut-être parce que tu viens d'un milieu toi-même modeste, en fait.
Oui, plutôt, oui. Ouais, j'ai grandi à Cholet, j'étais pas dans la pauvreté absolue, mais voilà, ma mère, elle a toujours, elle a enchaîné des petits boulots, elle a galéré, elle m'a élevé seule. Mon père aussi donnait de l'argent, mais mon père était aussi plombier. Enfin, voilà, on n'est pas une grande famille, il n'y a pas beaucoup d'argent, mais juste ce qu'il faut, voilà, pour vivre, quoi, de manière assez décente, entouré d'agriculteurs, de travailleurs. Donc ça a toujours, oui, j'ai toujours baigné là-dedans. Même dans mes camarades, puis même moi après quand je suis entré dans la vie active. Oui, il n'y a pas de condescendance. Par contre, je me suis bien rendu compte en effet de l'impact des décisions politiques sur nos vies et notamment dans le monde du travail. Et j'ai, là, en plus, 2020 était encore plus marquant à ce niveau-là, dans les déclarations, le décalage entre les déclarations, les actes et le réel des travailleurs. Donc, ouais, j'ai ce côté militant. En tout cas, j'essaie d'avoir des personnages, comme je te disais, qui essaient de rentrer en militantisme dans une des années où c'était le plus dur et dans une des villes où ça semble pas évident. Et ça, c'est ça qui m'intéressait.
Ton roman, il a donc bientôt un an de vie entre les mains des lecteurs et des lectrices. T'as remporté le prix des rencontres du deuxième roman, que je ne connaissais pas. Tu as aussi participé à plein de rencontres avec le public et tu planches donc sur ton prochain roman qui est attendu pour 2025.
Oui, il sort en mars prochain, toujours chez... Alors déjà, Plexiglas sort en poche en janvier. Je suis content. Et ensuite, en mars, ça sera un roman dont je peux pas donner le titre pour l'instant parce qu'on est encore en train de galérer sur le titre. On en avait un, mais... un autre roman qui a pris le même titre récemment et je me suis fait avoir.
Mais on peut dire qu'on sera loin des galeries commerciales.
Oui, oui, ça se passera dans les Yvelines et ça sera, les personnages principaux seront des wallabies, des petits kangourous. Mais ça sera un roman aussi assez militant, encore plus je pense que Plexiglas. Et là, je suis en train de travailler sur pas une suite, mais presque de Plexiglas, parce qu'en fait, j'aimerais retrouver tous les deux romans, j'aimerais retrouver le personnage d'Eliott et le suivre 4 ans plus tard. Et là, ça se passe en juillet-août 2024. Sur la côte vendéenne. Donc voilà.
Il va falloir que tu prennes en compte déjà l'actualité cet été.
Quand je te dis mes lectures, je suis en train de conserver pas mal de choses. Et Dieu sait que cet été, l'actu, ça manque pas. Mais ça sera encore écrit toujours à hauteur de personnages et avec des nouveaux personnages autour d'Eliott. Et ça sera lisible si vous n'avez pas lu Plexiglas, évidemment. Mais voilà, j'aimerais le retrouver comme ça tous les 4 ans dans une ville différente.
Merci Antoine.
Merci Lucie pour l'invitation.
Antoine Filias, auteur rennais de ce livre Plexiglas, qui est sorti en 2023 aux éditions Asphalte et à retrouver en librairie au prix de 21 €. On se quitte avec un choix musical. C'est un des titres qu'on retrouve à la fin de l'ouvrage. Et c'est quoi cette liste de morceaux? Ils t'ont accompagné pendant l'écriture?
En fait, les éditions Asphalte demandent toujours ça à leurs auteurs, peu importe le roman, d'avoir une playlist à la fin. Et donc c'était pas évident parce qu'il y a toute la musique qu'on entend le roman, c'est celle des radios commerciales souvent qui passent dans le supermarché. Mais c'est plus des titres que j'ai choisis où je sentais que dans le mood et dans les propos, ça collait aux états d'esprit des personnages. Voilà.
Au fond.
sac en plastique, le sac en plastique de Philippe Catherine sur Canal B, un morceau qui, comme le précédent des Clash, fait partie de la playlist d'Antoine Filias à la fin de son roman Plexiglas, sorti il y a maintenant un an. Même si le ciel n'est pas d'humeur, c'est l'été sur Canal B. Et aujourd'hui, dans De Boules Vanille, on bouquine pendant une heure pour vous donner des envies d'achat, ou d'emprunt d'ailleurs, avant de prendre la direction des plages ou des montagnes. On continue avec un arrêt au chapitre littérature jeunesse maintenant. Je vous propose de découvrir ou redécouvrir plusieurs albums de Claude Ponty. Aujourd'hui, Pétronille et ses 120 petits, ça date de 1990. Et l'habillage musical pour cette création sonore, il est signé Chapelier Fou, un compositeur français dont je suis allée chercher plusieurs morceaux dans l'album Méridien qui est sorti en 2020. C'est le matin. Pétronille boit son thé aux gruyères devant sa maison. Elle regarde le soleil se lever. Il a bien dormi. Pendant la nuit, des champignons ont poussé. Il va faire beau. Pétronille prépare le déjeuner de ses petits. Elle en a beaucoup. 120 exactement. 12 fois tous les doigts des deux mains. Comme tous les matins, ils ont très faim et prennent leur biberon sur ses genoux. Ensuite, ils font chacun un dessin pour leur papa qui est loin. Il s'appelle Everest. Pétronille va s'en aller faire des courses. Elle laisse ses petits à la maison. Leurs dessins terminés, ils les mettront dans une grande enveloppe blanche qu'ils posteront. En chemin, elle pense à tous ses enfants. Elle y pense si fort que ça fait une fleur rose autour d'elle. Elle est très heureuse d'être une fleur avec autant de pétales.
Feuilline, Asticotin, Saline, Vivien, Cabotin, Carambolin, Sandrine, Ghislain, Rosaline, Édulcorant, Trousquine, Gassien, Dandine, Tartarin, Grenadine, Constantin.
Chez l'épicier, elle achète une grosse tranche de pommes, un grain de riz, 5 paquets de pâtes, un jeu de mistigris et 120 sucettes. Elle décide de rentrer par la forêt touffue qui est si belle dans la lumière de l'été. Elle ne voit pas les yeux qui la guettent entre les feuilles. Ce sont les yeux de Cafouillon qui est si bête qu'il mélange toujours tout. Il croit que Pétronille est une souris verte. Il l'attrape et la donne à ses messieurs. Ces messieurs la trempent dans l'huile et la trempent dans l'eau pour en faire un escargot tout chaud. Pétronille n'est pas d'accord et trouve le moyen de s'échapper. C'est un moyen très rapide et même assez pratique. Malheureusement, il a si mal aux oreilles qu'il ferme les yeux, l'imbécile. Pétronille s'envole par-dessus un troupeau de roches endormies. Elle se sent un peu molle dans les chevilles. Elle s'écrase près d'une colline. En plus, une pluviote à aigrette se met à faire de la pluie. Elle court se mettre à l'abri sous un dolmen, tout en haut sur la colline. Les trois pierres habitent sous le même chapeau depuis si longtemps qu'elles ont oublié quand elles l'ont acheté. Elles s'ennuient et pleurent sous la pluie. Pétronille n'aime voir pleurer personne, encore moins les pierres. Elle sort de sa poche le jeu de mistigris et leur apprend à jouer. Et voilà qu'on entend rire sur la colline. Les trois pierres donnent un petit caillou à Pétronille en échange du jeu de mistigris, peut-être aussi pour la remercier. La pluie qui tombe très fort fait un rideau. Pétronille va voir de l'autre côté, il y a un chemin. Elle décide de le prendre. C'est un mauvais chemin qui fait exprès de perdre les gens. La voilà complètement perdue au milieu de plantes féroces qui veulent la mordre et la manger. Elle n'a pas vraiment envie d'être mangée. Elle s'enfuit et s'accroche à des poussins qui jouent à être une corde. Pétronille est sauvée grâce aux poussins qui sont très malins. Surtout Blaise, le poussin masqué, qui sait tout et même encore plus. Une petite fille est en train de lire dans sa forêt bibliothèque. Elle s'appelle Adèle et n'a rien vu. Pétronille, elle, continue. «
Alors là, elle est plus perdue que perdue. Elle pense qu'elle est au moins ailleurs. Il y a encore quelqu'un qui pleure. Cette fois, c'est une Madeleine. C'est difficile à consoler une Madeleine. Et puis toutes ces larmes qui font une mare, un lac, une mer, un océan, un super océan géant, c'est gênant. Pétronille lance le petit caillou offert par les trois pierres. Il se met à pousser sous l'eau, juste à temps pour Pétronille qui ne sait pas nager. Et la Madeleine pleure toujours malgré les câlins. Pétronille essaye un bisou anti-chagrin et la Madeleine éclate en 8 morceaux. Dedans, il y avait Tartarin, un de ses petits, enfermé dans le gâteau. Elle n'y comprend plus rien. Tartarin lui explique que
Batifoline est partie poster la lettre pour leur papa et que un horrible monstre est venu enfiler sa trompe dans la maison et que il a aspiré et emporté tous les enfants emballés dans son tablier et que lui, Tartarin, il a sauté dans le ciel et que là, il a vu Batifoline qui s'envolait aussi, à cheval sur la lettre qui était devenue un oiseau et que lui, il est tombé et il a pleuré et puis il était dans la Madeleine et que après, il ne sait pas.
Pétronille est toute seule au milieu du super océan géant. Tartarin, contre son sein, elle regarde au loin. Un étrange nuage. C'est la robe de quelqu'un. La maman de toutes les mamans vient aider Pétronille à quitter son île caillou. Avec une mèche de ses cheveux, elle fait un pont par-dessus le super océan géant. Sur le pont de cheveux, Pétronille court. Elle traverse le ciel comme un éclair, saute sur le sommet d'une falaise. Elle entend crier. Ses petits sont prisonniers dans l'arbre-cage. Prisonniers du sagouinfre, qui plonge les enfants dans le chocolat chaud avant de les manger. Un terrible combat commence. Les petits, délivrés par Tartarin, Everest et Batifoline arrivés par courrier, et Pétronille, furieuse, attaque le monstre. Tout est fini. La bête est morte. Transformée en éclair de pierre et de chocolat. Pour toujours. La petite famille, enfin réunie, s'en retourne par n'importe quel chemin, puisqu'elle ne sait pas où elle est. Le mieux est certainement de franchir le mur. Sur le mur, une poule picote du pain dur. C'est la poule de la chanson, mais elle ne le sait même pas. Sa chanson à elle, elle ne la connaît pas. Elle est nulle. De ne rien savoir à ce point, ça la colle au mur. Alors, les petits lui chantent sa chanson.
Une poule sur un mur qui picotait du pain dur, picoti, picota, lève la queue et puis s'en va.
Aussitôt, la poule lève la queue et puis s'en va, laissant une petite plume. La plume grandit comme un artichaut. Tout le monde grimpe dedans et l'étrange artichaut prend son vol. Il connaît le chemin de la maison. Elle est un peu cassée, mais elle a attendu là, sans bouger. Maintenant, c'est le soir, et c'est la fête. Les enfants font un spectacle où ils ont tout inventé. Leurs parents regardent, la nuit sera douce. Thank you.
C'était Pétronille et ses 120 petits de l'auteur et illustrateur français Claude Ponty. Vous entendrez encore une autre lecture de ce même auteur la semaine prochaine sur cette antenne. Et puis tiens, transition toute faite, Claude Ponty fait justement partie des auteurs qui se racontent dans le podcast que je vous recommande, Bookmakers. C'est une série d'entretiens menée par Richard Guettet, lui-même auteur et journaliste, pour Arte Radio. Depuis 2020 et jusqu'en juin 2024, 31 auteurs et autrices francophones lui racontent leur entrée en littérature, leurs inspirations, leur processus d'écriture évidemment, et puis leur cheminement d'un livre à l'autre. C'est passionnant car ça déconstruit complètement l'idée du génie littéraire, et puis on découvre toute la cuisine qui est habituellement tue et qui se cache entre les lignes des livres. Et puis surtout, ça donne envie de poser son téléphone pour se remettre à lire, ça c'est formidable. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter l'extrait de l'épisode numéro 8 en compagnie de Delphine de Vigan, une autrice qui a 11 romans à son actif, le dernier sorti en 2021 je crois, et 10 ans auparavant, Rien ne s'oppose à la nuit, c'est le livre dont il est question dans l'extrait que vous allez entendre. La réalisation, elle est signée Samuel Hirsch, et l'intégralité de cet entretien et des autres épisodes sont à écouter en ligne sur arteradio.com.
Si j'ai écrit ce livre, c'est aussi parce que toute mon enfance, j'ai entendu des gens dire « il faudra écrire sur cette famille, que cette famille est romanesque, il faudra écrire là-dessus ». Et ça a fait probablement de moi la romancière que je suis. Ça a contribué en tout cas à faire de moi la romancière que je suis.
Bookmakers.
Les écrivains au travail. Par Richard Guettet.
En 2010, une trentaine d'années après les vœux répétés de son entourage qui déterminèrent peut-être ainsi sa vocation, Delphine de Vigan s'engage tout entière dans l'écriture, qui ne dura que 9 mois, d'un roman prenant pour cadre et personnage sa famille, je cite, « joyeuse et dévastée ». Le temps d'offrir, plus précisément, un cercueil de papier à sa mère bipolaire qu'elle rebaptise Lucille. Publié à la rentrée 2011 aux éditions J.C. Lattès, Rien ne s'oppose à la nuit s'ouvre sur la découverte du corps de Lucille quelques jours après son suicide par Delphine elle-même. La romancière interroge longuement ses oncles et ses tantes, toutes celles et tous ceux qui l'ont connue de près, enclenche le processus, mais très vite, l'élan se brise. De Vigan écrit « Je sais aujourd'hui, alors que je ne suis même pas à la moitié du vaste chantier dans lequel je me suis empêtré, j'ai failli écrire du vaste merdier dans lequel je me suis foutu, combien j'ai présumé de mes forces. » Quelle énergie faut-il pour faire naître un roman de deuil? Comment s'autoriser soi-même à écrire puis à rendre public des secrets familiaux? Comment rapiécer les trous de la mémoire? Où se situe la frontière entre la vérité et la fiction? Et est-ce que c'est un soulagement d'écrire tout ça, vraiment? Je parie que les réponses à ces questions se trouvent dans cette deuxième partie de ce numéro de Bookmakers en compagnie de Delphine de Vigan. Une vie de Maupassant a sans doute été votre premier choc littéraire. Ce premier roman de Maupassant, publié en 1883, raconte la malheureuse existence d'une jeune aristocrate depuis l'heure où s'éveille son cœur jusqu'à sa mort. Et ce livre a pour sous-titre « L'humble vérité ». L'humble vérité, est-ce que ça peut marcher pour définir ce qui sera votre position, voire votre éthique, au moment de démarrer l'écriture de « Rien ne s'oppose à la nuit » ?
Ce serait pas l'humble vérité, ce serait mon humble vérité en réalité. Oui, très vite, et au moment où j'ai commencé, j'ai entrepris ce travail un peu fou, je me suis dit, il faut que j'affirme et que je réaffirme tout au long du texte, et je crois que c'est le cas, que ce n'est que mon humble vérité. Et que toute vérité, dès lors que, en tout cas, on manipule un matériau aussi, à la fois aussi incandescent et aussi familial, ne peut être que subjective, en fait. Il y a une quête de vérité. Peut-être qu'à un moment donné, j'ai eu, mais ça n'a pas duré très longtemps, le fantasme ou l'ambition de pouvoir atteindre la vérité à travers ce texte et à travers ce geste, surtout de l'écriture, pouvoir m'approcher davantage de ma mère, comprendre mieux qui elle était, comprendre mieux son suicide. Enfin, voilà, il y avait sans doute quand même quelque chose d'un peu naïf, peut-être. Je ne sais pas d'ailleurs jusqu'où aujourd'hui je ne reconstruis pas tout ça. Est-ce que j'ai vraiment cru que je pouvais atteindre quelque chose? Est-ce qu'au fond, je ne savais pas dès le départ que c'était impossible? Je ne sais pas trop. En tout cas, En cours de route, très clairement, je me suis dit, non, tu n'en sauras pas plus à la fin de ce texte. Peut-être que tu te seras surtout rapproché de toi-même. Peut-être que je me suis réconciliée moi-même avec un certain nombre de souvenirs et avec une certaine vision de ma mère. Mais au fond, je ne crois pas, malheureusement, avoir saisi une quelconque vérité.
Étant donné la nature éminemment intime et douloureuse du texte, est-ce que c'est déplacé de vous demander d'en lire un fragment à voix haute ?
Non, ça, je peux. Aujourd'hui, 10 ans après, je peux. Il y a certains passages que j'étais incapable de lire au moment où le livre est sorti. Ça m'est arrivé qu'on me demande, je pouvais en lire certains passages, mais pas tous. Et ça m'est arrivé qu'on me demande, notamment de lire le début du texte, que j'étais pas capable de lire à voix haute et encore moins en public. Voilà, c'est sans doute, évidemment, de tous les livres que j'ai écrits, celui que je connais le moins. C'est pour ça que, d'ailleurs, en pensant à ce moment qu'on allait passer ensemble, je me suis dit c'est étonnant parce qu'au fond, je vais parler de mon livre que je connais le moins, mais c'est intéressant. Et en même temps, c'est celui qui conserve la charge émotionnelle la plus importante.
Je ne sais plus quand est venue l'idée d'écrire sur ma mère, autour d'elle ou à partir d'elle. Je sais combien j'ai refusé cette idée, je l'ai tenue à distance, le plus longtemps possible, dressant la liste des innombrables auteurs qui avaient écrit sur la leur, des plus anciens aux plus récents, histoire de me prouver combien le terrain était miné et le sujet galvaudé. J'ai chassé les phrases qui me venaient au petit matin ou au détour d'un souvenir, autant de débuts de romans sous toutes les formes possibles, dont je ne voulais pas entendre le premier mot. J'ai établi la liste des obstacles qui ne manqueraient pas de se présenter à moi et des risques non mesurables que j'encourais à entreprendre un tel chantier. Ma mère constituait un champ trop vaste, trop sombre, trop désespéré, trop casse-gueule, en résumé. Et puis j'ai appris à penser à Lucille sans que mon souffle en soit coupé. Sa manière de marcher, le haut du corps penché en avant, son sac tenu en bandoulière et plaqué sur la hanche, sa manière de tenir sa cigarette écrasée entre ses doigts, de foncer tête baissée dans le wagon du métro, le tremblement de ses mains, la précision de son vocabulaire, son rire bref qui semblait l'étonner elle-même, les variations de sa voix sous l'emprise d'une émotion dont son visage ne portait parfois aucune trace. J'ai pensé que je ne devais rien oublier de son humour à froid, fantasmatique, et de sa singulière aptitude à la fantaisie. Je ne sais plus à quel moment j'ai capitulé. Peut-être le jour où j'ai compris combien l'écriture, mon écriture, était liée à elle, à ses fictions, ces moments de délire où la vie lui était devenue si lourde qu'il lui avait fallu s'en échapper, où sa douleur n'avait pu s'exprimer que par la fable.
Avant de se quitter, il me reste une dernière info pratique à vous livrer, puisqu'on parle de livres. Tout l'été, la librairie Le Fayère à Rennes ouvre un espace éphémère qui est consacré à la bourse aux livres. Rendez-vous au 16 rue Saint-Georges à Rennes, juste à côté de la librairie principale, pour y dégoter, c'est l'idée, des manuels neufs ou d'occasion pour la rentrée. Et la librairie reprend également les manuels d'occasion de l'année passée. Toutes les infos sont à retrouver en ligne sur le site librairielefayère.fr. De Boule Vanille, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission estivale à écouter du lundi au vendredi à chaque fois à 17h et en rediffusion le lendemain à 8h. Et les podcasts, eh bien, ils sont en ligne sur canelb.fr. À bientôt.